Je garde ce micro parce que un frère en Guadeloupe m'a dit une fois que la présidence est terminée, on n'entend plus rien. Donc, malgré ces deux-là, je garde celui-là. Ça vous dérange? C'est pareil. Bien, bonjour à chacun de vous. Si je vous demandais de définir la foi, vous me diriez... Pardon? Une démonstration de quoi? De karaté? Oui, on peut faire du karaté avec l'ennemi, hein? Parce qu'il est déjà vaincu. Hébreux 11, verset 1. Sans se concerter, Patricia l'a lu. Mais il dit quoi? Une ferme assurance, une démonstration, une garantie des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. On n'a pas vu, mais on a cru. Et on est là. Ou on est fou, ou on est croyant. Certain que ce que Dieu dit est vrai. N'est-ce pas? On peut être fou de Dieu, hein? Ça existe. Mais la foi, ce n'est pas une recherche du surnaturel, du miraculeux, comme on trouve de plus en plus autour de nous. Le miraculeux, c'est Dieu. La foi, c'est à nous de la voir. Parce que sans la foi, ce n'est pas cette recherche désespérée, mais c'est plus une relation confiante à Dieu ou en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, il n'y a rien. Vous êtes d'accord? Par la foi, par ailleurs, la Bible dit, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais comment je le sais si je ne l'ai pas lu? Donc, toute la parole de Dieu est doctrine. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et la foi est cet ensemble de doctrines bibliques. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Et c'est la parole qui le dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi, c'est aussi une certitude du cœur. C'est plus une connaissance intellectuelle. C'est quelque chose qui se passe ici. Et Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il ne dit pas, donne-moi ton cerveau. Parfois, on se demande s'ils ont un cerveau quand on les voit vivre, quand on les voit fonctionner. Mais donne-moi ton cœur. Et la foi, c'est cette certitude du cœur au sujet de Dieu, de ses paroles, de ses promesses. On dit, j'ai la certitude, je suis convaincu et personne ne va enlever ça. Et Dieu dit, crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je vous invite à trouver, nous dessine une galerie, je dirais, des héros de la foi. En grec, le mot traduit par foi contient la notion de solidité. Donc, une galerie d'hommes et de femmes solides, comme on en trouve dans nos assemblées aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Ah, il y a des femmes et des hommes solides, hein, dans la foi. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. Parce qu'ils ont enduré la persécution auparavant pour que nous ayons une communauté, nous ayons une église locale. D'accord? Et nous allons combattre pour que nos enfants aient quelque chose de solide. Amen, quand on dit Amen, ça veut dire quoi? Hein? Ainsi soit-il, c'est du solide. Et Jésus disait, en vérité, je vous le dis, c'est vrai, c'est du solide. C'est comme un pieu planté dans le sol. Et personne ne peut l'ébranler parce que c'est Dieu qui l'a planté. C'est du vrai, c'est du solide et tu peux bâtir dessus. Aujourd'hui, on dit, oui, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en elle, pourquoi? Parce que je sais que sa parole est oui. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un en qui on peut s'appuyer de toutes ses forces. Parce qu'on sait qu'il est fidèle et parce qu'on n'a jamais trouvé de faille chez cette personne-là. Mais parce que les temps sont difficiles, les temps que nous vivons sont difficiles. Pas seulement quand nous regardons les actualités. Hein. Mais nous avons l'impression qu'on nous prend pour des pigeons. Non? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Au gouvernement, on prend les mêmes, on continue avec. On change de chemise, mais c'est les mêmes. On est averti, hein? Mais nos regards, notre regard doit être porté sur Jésus-Christ. Alors, sur qui s'appuyer? Sur quoi s'appuyer? Ou une autre question, sommes-nous prêts par la foi aujourd'hui à refuser? Dire non. Est-ce que la foi dit non? Il a dit non. Est-ce que la foi dit non? Est-ce que la foi doit refuser? Allô, vous ne savez pas? Pourtant, je vous propose de lire verset 23, chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois parce que ses parents... Il fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas les dits du roi. Je m'arrête là, j'ouvre et je refais une parenthèse. Ça, c'est la foi des parents. Quel parent qui ne trouve pas son bébé beau? Allô? Soyons logiques. Même quand il lui manque une oreille, on dit, il est mignon. Mais tout parent trouve son enfant beau, même à 40 ans. C'est mon fils, c'est ma fille. Mais ici, c'est la foi des parents. Et la foi aussi des sages-femmes, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, si on lit Exode chapitre 1, le pharaon avait écrit un édit que les sages-femmes devaient tuer tous les enfants mâles de l'époque. Et les sages-femmes n'ont pas obéi. Vous connaissez l'histoire? Exode chapitre 1, versets 16 et 17. Parce qu'elles ont plus craint Dieu que le roi. Donc la foi refuse. Allô? Verset 24, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse, par la foi, refusa. Vous suivez, c'est pas moi qui écris. Hein? Par la foi, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Vous connaissez beaucoup qui font ça? Allô? Aujourd'hui, on refuse les plaisirs de ce monde par la foi pour aller avec Dieu. Vous allez me dire, c'est ce qu'on a fait. Mais après combien d'efforts? Combien de tentatives de la part de Dieu et des parents, des jeunes, des prières, des luttes, des souffrances. Mais Moïse, il comprend qu'il faut qu'il fasse un choix. Et nous devons toute notre vie faire un choix. Il estimait, verset 26, en effet, que l'opprobre du Christ était plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, donc il refusa encore, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme une terre sèche. Tandis que les Égyptiens qui ont fui la tentation furent engloutis. Il aurait pu dire, bon, c'est fini. Hein. La mer devant, les Égyptiens derrière, capitulons. Mais il refusa de capituler par la foi. Et dans notre vie, nous aurons toujours à capituler ou à refuser. S'il faut choisir, on fait quoi? On capitule? Il y a des choix difficiles. Mais, pardon. Dans notre texte, Moïse, recueilli par la fille du Pharaon, je ne vous raconte pas l'histoire, vous connaissez, grandit dans la cour de l'Égypte. Moïse n'a pas connu la pauvreté. Moïse a encore moins connu la misère. Contrairement à nous. Et donc Moïse, face à tout ce faste-là, parce que c'était des bœufs, des moutons, des, tout ce qu'on pouvait tuer le jour, il vivait à la cour du roi, il n'a pas connu la boue de l'esclavage. Mais à un certain moment, il y a un problème d'identité. Il découvre qu'il est hébreu et que sa place n'est pas à la cour du roi. À un certain moment de notre vie, nous découvrons que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. C'est ce que la Bible nous dit, premier épître de Jean. Et que nous devons faire un choix. Choix pas facile. Ce n'est pas la religion, c'est la relation. Et ce n'est pas être dans un mouvement qui compte, mais c'est être dans une relation qui compte avec Dieu, avec Christ. Moïse va refuser de t'appeler le fils de la fille du Pharaon. Il nous arrive, comme à Moïse, de patauger dans des eaux troubles. Non? On ne sait pas. Et il est face à ce dilemme. Il ne sait pas qui il est, mais il prend conscience qu'il doit faire un choix entre les plaisirs de la cour d'Égypte, où il a grandi, et les souffrances du peuple hébreu. Mes amis, il faut choisir entre les plaisirs et les souffrances. Je choisis, honnêtement. On me promet 20 coups de bâton là, tout de suite. Et puis un plat de lasagne, je choisis les lasagnes. Il faut être logique. Qui c'est qui aime les coups ici? Levez bien au ramen. Vous voyez, vous mentez. Et pourtant, Moïse a préféré choisir d'être méprisé avec son propre peuple pour aller plus loin, parce que la Bible dit au verset 26, qu'il a vu plus loin que les souffrances actuelles. La foi, c'est de nous projeter dans le temps. La foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et quand nous regardons notre vie, ou la vie de ceux qui nous ont précédés, notre foi est bien faible. Dieu a toujours mis les hommes devant un choix. Pendant 120 ans, Noé a prêché, prédicateur de la justice. Combien ont été sauvés? 8. Imaginez 8 sur toute une populace. On dit, mais fiche qu'ils étaient durs. Et si on était là? On n'avait jamais vu la pluie. Et puis, la vie à l'extérieur était beaucoup meilleure que d'être enfermé sur une montagne dans une arche, à sentir l'odeur des animaux. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. » Et Dieu dit, « Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu nous encourage. Tu as 18 ans, tu as 20 ans, mais je te conseille de choisir la vie. 1 roi, chapitre 18, verset 21. Le prophète Élie demande au peuple d'Israël d'arrêter. D'arrêter quoi? De clocher des deux pieds. Choisissez entre Dieu et Baal. Et plus près de nous, l'apôtre Jean dit, vous êtes dans le monde, bien-aimés, vous êtes dans le monde, petits enfants, mais, vous n'êtes pas du monde. Pas trompé quoi. Il y a plein de plaisir autour de toi, c'est là que tu vis, et puis après tout, tu dis, j'ai pas le choix. Oui, tu as le choix. Tu as le choix de sortir de là, pour suivre Christ. Vous voyez, de la jeunesse à nos jours, la foi a toujours existé. La foi nous permet de résister et même d'avancer, mais pas de reculer. D'avancer, de mettre nos pas dans les pas du Christ. Parce qu'il nous faut un guide, le chef de notre foi. Ici-bas, on n'a que des chefs. Vous avez observé ça dans votre entreprise? Il n'y a que des chefs. Celui-là est directeur ceci, celui-là est directeur adjoint de, celui-là est responsable de, tout le monde est chef. Et tout le monde donne des ordres. Mais nous avons un seul chef, Christ. Allô? Si vous voulez des subalternes, cherchez-les, mais bon. Mais Moïse, en refusant d'être appelé la fille de Pharaon, a signé son arrêt de mort. C'est pas vrai? Ah oui, il était condamné. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance chez nous aujourd'hui, en refusant de suivre Satan. Je signe mon arrêt de mort, je suis mort à cette vie-là que je mène pour vivre une nouvelle vie en Christ. La foi refuse. La foi dit non. Et la foi qui ne sait pas dire non, c'est une foi bancale, parce que tôt ou tard, je vais choisir le côté où je me sens le mieux. Choisir est difficile. Quand il faut choisir un métier, quand il faut choisir un conjoint, quand il faut choisir je ne sais pas quoi, on tergiverse, on pèse le pour et le contre. Et puis il y a des choix, on dit il n'y a pas photo. Hein. Mais attention à ne pas faire le mauvais choix. Le texte dit que Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a préféré être méprisé plutôt que de baigner dans une jouissance éphémère. Quelque chose qui passe. Et tout ici-bas passe. Vous savez, le péché est attrayant. Hein? Ah, ça attire, ça séduit. Et si on n'est pas ancré, debout en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être enracinés en Christ. Vous avez essayé d'arracher un arbre planté depuis 10 ans. C'est un tracteur qu'il faut, hein? Si c'est 10 jours, ça va. Mais 10 ans. Mais la foi doit nous aider à aller plus loin, à être audacieux. Il est difficile parfois de se détacher des jouissances de ce monde. Et il y a la télévision, il y a toute forme de tentation. Et on est vite tombé dans une addiction où on a du mal à s'en sortir, à s'arracher. Parce que c'est pas ma faute. On accuse les aînés, on accuse les jeunes. Les jeunes n'ont pas toujours tort, ils ont trouvé ça. N'est-ce pas? Ils ont trouvé ça comme ça, mais il faut condamner les parents. Hein? Il faut d'abord soigner les parents avant de soigner les enfants. Hein? Ah, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais mes amis, c'est pas parce que j'ai parlé. C'est pas parce que j'ai remis entre les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ que Satan ne va pas le tenter. Hein? Vous savez ça? Il arrive à l'école et on lui propose du gaz hilarant. Oh, c'est comique. Il sniffe. Une petite poudre, c'est rien. C'est... Tu vas te sentir bien. Sniff. Et après, il ne peut plus s'en débarrasser. Le péché a un côté attrayant, séduisant. On est devant la télévision, on a du mal à tourner le bouton parce que on prend le portable, on l'ouvre et on glisse. Et on glisse et puis on se rend compte qu'une demi-heure est passée à regarder des bêtises. Ben ouais. Entrer dans un métro, dans un train et puis regarder. Il n'y a plus les journaux à papier. Tout le monde est en train de glisser et puis de rigoler, casse. Je dis, mais c'est fou. Donc je ne regarde plus celui qui rentre. Ni celui qui a besoin d'une place, ni celui qui demande une pièce. à ce que je glisse. Je suis occupé. Et Dieu nous invite à renoncer, à refuser. Le terme refuser est diversement traduit dans certaines versions, c'est renier. On dit quelqu'un qui a renié quelque chose, c'est grave, hein? Il y a pire. C'est rejeter, c'est haïr. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï. J'ai aimé moins. Mais Dieu n'est pas l'homme. Quand l'homme dit, je te hais, je ne veux plus te voir. Mais Dieu dit qu'il aime moins Esaü. Ça ne veut pas dire qu'il a béni Esaü, tout comme il a béni Israël, comme il a béni Isaac et Jacob. Mais Dieu n'est pas l'homme. Et le texte nous invite à avancer. Pharaon n'a pas compris comment Moïse a pu rejeter toutes ces jouissances-là pour aller dans la boue du péché. Et nos amis non plus n'ont pas compris et ne vont pas comprendre. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, n'est-ce pas? Et souvent, quand on se convertit, quand on décide de suivre Jésus, on te dit, ah, ils t'ont pris dans la colle, tu as mordu à l'hameçon, tu es entré dans la société, société religieuse, tu es entré évangélique, comme si c'était une tare. On vous a jamais dit ça? C'est méprisant pour certains, mais d'autres disent, ah ouais, s'il faut être ridiculisé, je préfère rester là. Il y a toujours un choix. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. On peut parler 20 ans à quelqu'un, prier pendant des années. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, il peut entendre des prédications sur des prédications, puis on ne comprend pas pourquoi un tel n'avance pas. Mais la Bible dit qu'il y a une puissance d'aveuglement qui est là. Et que c'est par la prière, par le jeûne. Lors des moments de festivité, parfois dans la famille ou dans le quartier, on se dit, oui, mais est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que... Ce sont quand même des voisins, et puis ce sont mes meilleurs amis. Mais oui, mais quand je sais que ça va déraper en certains moments, et j'ai vu des ambiances déraper, vous avez vu des ambiances déraper, vous dites, qu'est-ce que je fais? Je reste là ou je pars? Mais vous êtes comme scotché. Bah ouais, vous ne vivez pas dans le même monde que moi. On est comme scotché, on a envie de se lever et puis partir. Moi, j'ai vu dans des mariages des gens qui n'étaient pas d'accord et puis se sont levés et puis ils sont partis. Et puis il y a d'autres qui ont dépassé, doublé. C'est comme la traversée de la mer Rouge, les vieux dépassaient les jeunes. Parce qu'on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, il faut oser dire. Mais si je suis le seul à dire, je regarde à gauche, à droite, je dis, ah ouais, c'est... Ça va faire louche. Mais Moïse n'a pas regardé aux autres. Hein. Il a refusé tout court, préférant l'opprobre, la honte du Christ. Et Hébreux 11, verset 6, dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je ne dis pas qu'il faut dire non à toute proposition, à toute invitation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que ce sont des parents, ce sont des amis. Mais il faut savoir mettre une limite. Et si je ne me mets pas des limites, qui c'est qui va me les mettre? C'est, je crois, ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 25. Luc, chapitre 14, verset 25, 26. Alors que de grandes foules faisaient route avec Jésus, Jésus se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, » le verbe « haïr hein, »,« s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, qui demande beaucoup de choses. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus met la barre très haut. Il dit, pour entrer dans le royaume de mon Père, on ne s'amuse pas ici. C'est déjà un privilège pour nous, n'est-ce pas, d'être appelés amis, héritiers, co-héritiers. Mais on ne vient pas faire la fête ici. C'est un peu ça. Dieu nous offre un autel pour griller, brûler tout ce qui nous retient captifs. Et il nous propose une croix que nous devons porter tous les jours. Allô? Je dois me charger chaque jour de ma croix. Est-ce qu'à un certain moment, je dis, Seigneur, je suis fatigué? Il a porté la croix. Et donc, les exigences du royaume, c'est de pouvoir s'engager, non pas à peu près, pour s'arrêter en chemin, mais refuser tout, sinon rien. Et avec Dieu, c'est ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé sa gloire pour descendre habiter parmi nous, mourir pour nous. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Alors que j'ai la force en Christ. Nous l'avons chanté tout à l'heure, nous sommes plus qu'un vainqueur. C'est tous les jours que nous devons refuser les jouissances éphémères de ce monde pour rester attachés au Seigneur. Et en quittant l'Égypte, en tournant le dos à l'Égypte, en dépit des menaces du Pharaon et en dépit des plaintes du peuple d'Israël. Ah, qu'est-ce qu'on était bien en Israël, en Égypte. Moïse a continué. Allô. Nous allons rencontrer des moqueries sur notre route. Nous allons rencontrer des menaces sur notre route de nos propres parents. Ça ne se passe pas en France, mais dans les pays où l'islam domine. Ça existe. Et je les ai vus, des parents venir chercher leurs filles dans une communauté où j'étais à l'époque. Et ils ont dit à leurs filles qui avaient plus d'une quarantaine d'années, t'as intérêt à ne pas descendre en Algérie. Et donc aujourd'hui, nous avons les Écritures et tout autour de nous, d'exemples d'hommes et de femmes qui ont mis la main à la charrue et qui ont regardé en arrière. Oubliant que le royaume de Dieu a des exigences. Comme on dit chez nous vulgairement, on ne fait pas la fête avec Dieu. Ils ont marché un temps avec Dieu, mais ils ont échoué, préférant les jouissances d'ici-bas. Jeunes et vieux, comme moi, nous sommes tentés tous les jours. Vrai ou pas? Nous sommes séduits par toutes sortes de propositions. L'argent. L'argent vient toujours en tête. Comment gagner facilement sa vie dans un temps de crise? Ah, si je pouvais, j'aurais acheté ça, j'aurais voyagé, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Ah, si je pouvais. Mais avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Si le diable n'a pas hésité à tenter, séduire Jésus, ce n'est pas nous qui va laisser de côté, hein? Et ce n'est pas parce que j'ai dit en utilisant des formules magiques au nom de Jésus et puis ça c'est combattre par le jeûne. Le jeûne n'a jamais résolu tous les problèmes. Hein. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas jeûner si vous avez envie de jeûner, si vous avez envie de prier. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai dit ne croyez pas que votre jeûne s'y ressemble à une grève de la faim va casser le bras de Dieu quand Dieu a déjà dit non. Les versets 26 et 27 d'Hébreux disent précisément que Moïse refusa les jouissances éphémères d'ici-bas, préférant l'opprobre, la honte, le déshonneur du Christ, car il tient ferme, solidement, comme voyant ce qui est invisible. La foi voit ce qui est invisible. Et ce qui est invisible est éternel en Christ, n'est-ce pas? La foi, c'est cette démonstration des choses qu'on ne voit pas, dit le verset premier. Et la foi lui permettait de regarder au loin. Et la foi doit nous permettre de regarder plus que ce que le gouvernement nous propose. Plus que les bruits de guerre que nous entendons. Plus que les balles qui sifflent déjà à nos oreilles. Regardons à Christ qui est à la porte. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous. Yes, il arrive. Mais il est déjà parti. Il est en chemin. Et Dieu nous invite à regarder plus loin. C'est l'issue finale. Aujourd'hui, vous souffrez. Qui ne souffre pas ici-bas? Chacun son lot. Mais regarde plus loin. Regarde plus loin. Christ va triompher. Il a déjà triomphé. Il y a des décisions que nous prenons sans savoir des fois pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Mais le Saint-Esprit œuvre en nous. Il prend des décisions là où nous ne savons plus quoi dire. Il parle à notre place. Il choisit à notre place. Parce que nous sommes choisis bien avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Moïse, Abraham, David, ces héros de la foi, conduits par la bonne main de Dieu, ont résisté. Je peux encore résister. Amen. J'ai relevé, je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous les donne quand même, 12 similitudes entre Moïse et Jésus-Christ. 12. Vous vous rappelez un chiffre? Entre Moïse et Jésus-Christ. Moïse, c'était le libérateur d'Israël, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le libérateur de toute l'humanité. Il a fait plus que Moïse. On est d'accord ou pas? Ne vous écriez pas. Alléluia. Les deux ont été protégés dans leur enfance. Les deux ont jeûné 40 jours. Vous voyez les textes, si vous connaissez l'Ancien Testament. Les deux ont contrôlé la mer. L'un a traversé la mer, l'un a marché sur la mer. L'un a dit au vent, taisez-vous. Les deux ont nourri une multitude. Les deux ont présenté un visage rayonnant après avoir rencontré Dieu. Souvenez-vous de Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Les deux ont supporté les murmures, les plaintes, le rejet. Ils ont été tous les deux rejetés par leurs proches. À un certain moment, ils ont dit à Moïse, et Moïse a échappé à la mort. Hein? Jésus a donné sa vie pour nous, pour son peuple. Jean, chapitre 1er, dit qu'il est venu parmi les siens n'ont pas reçu. Prophète méprisé dans sa patrie. Mais Moïse, si ce n'était pas la main de Dieu, il aurait été lynché, rejeté par le peuple. Les deux ont parlé de la part de Dieu. Les deux ont eu 70 assistants. Vous vous souvenez? Jéthro dit à Moïse, trouve-toi 70 hommes. Et Jésus envoie 70 disciples sur le terrain. Les deux ont institué des cérémonies commémoratives. Il est dit ici dans notre texte de Hébreu que Moïse a institué un peu la Pâque. Le premier à avoir fait, il a mis le sang sur les linteaux pour que l'exterminateur en passant ne puisse pas détruire. Préfiguration de la mort du Christ et de la venue du Christ. Les deux sont apparus après leur mort. Vous vous souvenez? Montagne de la Transfiguration toujours. Qui c'est qui était là? Ils étaient trois. Moïse, Élie et Jésus-Christ. Mais un seul est resté. Jésus-Christ. Un seul est vivant aujourd'hui. Jésus-Christ. Alors s'il y a un choix à faire, bien-aimé, choisissez Jésus-Christ. La Bible dit que, je continue et je conclue, que nous devons rester vigilants. Satan, le diable, n'a pas peur d'une église bien-aimée qui chante. Entendez bien ce que je dis. Satan n'a pas peur d'une église qui chante. Chanter, ce n'est pas toujours louer, adorer. Satan n'a pas peur d'une église qui danse, qui fait du bruit. Aujourd'hui, on a des danses prophétiques un peu partout. Satan a peur d'une église repentante. Une église où les fidèles sont repentis, nés de nouveau. Satan a peur d'une église où, s'il y a repentance, il y a conversion aussi. On voit différemment, on regarde dans une autre direction, Christ. Satan a peur de cette église-là. Mais Satan n'a pas peur de gens qui viennent tous les dimanches à la messe et qui sont habités par l'émotion. La foi émotionnelle ne dérange pas Satan. Nous avons besoin d'être solidement attachés, ancrés en Christ. Et l'ennemi va reculer devant, et il doit reculer devant une église debout en Christ. Pas debout dans la tradition. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas de repentance. Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. La foi doit renier, la foi doit refuser, la foi doit rejeter la séduction actuelle sous toutes ses formes, parce que notre vraie richesse est éternelle, plus que nous le pensions. Certains ont dit oui, mais depuis le temps qu'on attend, on ne voit rien venir. Attends toujours. La bénédiction ne tardera pas. Moïse avait compris cela. Il fut le premier à annoncer la mort du Christ en quelque part, en mettant le sang sur les linteaux. Et sans effusion de sang, continuez, point de pardon. Aujourd'hui, la mort du Christ nous rappelle notre existence ici-bas. Il n'est pas mort en vain. Et si je n'ai pas compris ça, alors je peux parader un peu partout ici-bas. La question est, est-ce que tu t'es lavé dans le sang du Christ? Je conclue avec ce texte de Philippiens. Et écoutez ce que l'apôtre Paul, qui était un persécuteur des chrétiens, persécuteur de l'Église, écrit dans chapitre 3, Philippiens chapitre 3. Et je termine avec, à partir du verset 17. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, frères. Portez, pardon, 17. J'ai écrit 7. Pardon. 17 jusqu'à... c'est 7, pardon. J'ai 7 sous les yeux. C'est 7. 3, 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 17. Chapitre 3, verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Vous voyez ce que Moïse disait? Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Il est plus que mon sauveur, il est mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondé sur la foi. Mon but est de reconnaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Voilà l'objectif de Paul. Est-ce notre objectif? Tout quitter, tout abandonner, tout pour Christ. Ça devrait être un mot d'ordre, hein? Tout pour Christ. Et donc, ça veut dire que tout ce que je vais recevoir à côté, c'est gnognotte. C'est de la bêtise. Parce que l'éternité est devant moi. Amen. Puisse Dieu vous aider à faire le bon choix aujourd'hui. Demain est un autre jour. Amen.